Bonjour, je suis Pascal Solière et c'est l'épisode 31 de ITcast du 10 juin 2016. Enfin, on vous retrouve avec Stanislas pour un épisode consacré à l'actualité de l'IT, avec aujourd'hui une nouvelle région Azure, de l'intelligence au service des jeux, du stockage frais et une nouvelle gamme de machines virtuelles dans Azure. Ensuite, il sera question d'open source avec FreeBSD et Juju, mais je n'en dis pas plus pour l'instant. Enfin, on terminera avec les dernières nouvelles des insiders de Windows 10 et notamment les containers dans Windows 10. Tout de suite, on retrouve Stanislas. Bonjour à tous, on est donc en ligne avec Stanislas.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Ça va bien ?
Ah, très bien.
Vous avez peut-être remarqué que ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas fait d'épisode de ITcast. C'est dû, hein, Stan, à une actualité assez chargée en vacances pour tous les deux. On a été en vacances de façon décalée. Et puis on a fait une tournée également, une tournée en France d'événements plutôt sympathiques d'ailleurs, avec 4 événements en province concernant Windows 10, et puis 2 événements, dont un en province, concernant le cloud hybride. Donc je tiens à remercier d'ailleurs les partenaires qui nous ont accompagnés, puisqu'on n'a pas fait ça tout seul, hein, on a fait ça avec des partenaires très compétents et qui sont venus en fait apporter leur expérience de projets de migration, notamment sur Windows 10, et puis de projets Azure également. Donc il y a Triad à Nantes, il y avait Accessit à Lille, SCC dans le sud-est, et puis Celanza pour tout ce qui était cloud hybride.
Et puis je vais rajouter dans les remerciements, on était également invité au Microsoft Innovation Center qui est à Mons, donc en Belgique, mais pas très très loin de la France. Mm-hmm. Où on a fait une après-midi sur Linux et Docker dans Azure. Et donc c'était particulièrement bien organisé. Et donc on tient à remercier encore Stéphane Deloison et puis tous ses collègues et amis qui nous ont accueillis vraiment avec la chaleur qu'on connaît de nos amis belges.
La chaleur qui n'était pas dehors d'ailleurs à ce moment-là, puisque on a eu droit à quelques grêlons assez phénoménaux quand même.
C'était pour le pastis de fin d'après-midi.
Ouais. Donc, tant qu'on est dans les remerciements, on va remercier nos potes du podcast AOS, qui nous ont invités hier soir.
Exactement, qui sont bien mieux équipés que nous dans le matériel, hein, ouais, et en bière aussi, ils sont plus équipés que nous en bière.
Bien équipés en bière. Et voilà, il faudra qu'on rende l'appareil, tiens, un de ces jours, pourquoi pas. Et puis, qu'est-ce qu'on a à propos d'AOS, tiens, on a un meet-up qui s'organise pour le début juillet, le 5 juillet précisément, que ça va se passer dans nos locaux de Microsoft Ventures. Et c'est un meet-up un peu spécial puisque c'est le regroupement de trois principales communautés du cloud français. Donc il y a AOS. AOS, je rappelle, c'est quoi ? C'est Azure, Office et SharePoint, historiquement. Il y a ASUG FR, donc le groupe des utilisateurs français de Azure, et puis le GUS, donc le groupe des utilisateurs de SQL Server. Et donc ces trois communautés vont se réunir pour un meet-up commun début juillet chez nous. Donc voilà,
c'est un petit meet-up de juillet. Le but n'est pas d'avoir beaucoup de monde, mais de rassembler les principaux leaders effectivement et participants de ces user groups dans nos locaux, juste sympathiquement pour bien commencer l'été.
Voilà. Donc au programme aujourd'hui, on a des nouveautés sur Azure et sur Windows 10 avec une dernière build insider de Windows 10. Et puis entre les deux, on parlera un petit peu de open source dans Azure. Donc Stanislas, par quoi on commence avec Azure ?
Alors il y a eu pas mal de petites annonces qui sont arrivées au fil des semaines, un petit peu comme vous avez dû en prendre l'habitude désormais. Hein, c'est d'où l'intérêt un petit peu de notre podcast. Alors, en termes d'expansion, on a eu pas mal d'annonces sur des nouvelles régions qui vont être prochainement disponibles. Donc, on savait effectivement que la région UK allait bientôt arriver. Ça, c'était déjà annoncé depuis quelques temps. On savait également qu'il y allait avoir deux nouvelles régions situées au Canada. Et ben la petite dernière est cette fois-ci asiatique, c'est le pays du matin calme que tu connais, Pascal.
Eh oui, tout à fait, la Corée du Sud.
Voilà.
Donc à Séoul. Et on va avoir combien de data centers en Corée du Sud ?
Alors combien de régions de data centers ?
Ah, bonne question. On devrait avoir une région et
plusieurs data centers.
Plusieurs data centers, hein. Ouais.
Donc en général, on ne donne pas, on ne donne jamais
Ah bon.
Le nombre de data centers.
Eh bien, on va couper la question au montage.
Non, mais il n'y a pas de souci, Pascal. Donc ça fait qu'aujourd'hui, on doit être à peu près à 32 régions qui sont annoncées, 24 qui sont disponibles. Alors là, ça fait un gros delta, tu vas me dire où sont passés les 8. Donc il y a ceux qui sont effectivement en cours de déploiement, comme effectivement la Corée du Sud ou le Canada. Et puis il y a certaines régions qui sont des régions un peu particulières. Soit par exemple, c'est la région, entre guillemets, Azure pour le gouvernement américain, ou la région... ou les régions Azure pour la Chine, par exemple, qui sont traitées de manière un petit peu différente. Donc avec des endpoints en fait, d'accès qui sont différents. Donc on en est aujourd'hui donc, à 32. Et globalement, si on regarde aujourd'hui combien on a investi sur cette infrastructure cloud et de services, on est aujourd'hui quasiment à 15 milliards d'investissements en US dollars, bien entendu. Mm-hmm. Ce qui prouve effectivement qu'on continue à poursuivre notre lancée vers les services de cloud public divers et variés.
On peut supposer que ce n'est pas fini d'ailleurs.
Ça, à mon avis, ça va même encore perdurer. Hein. Il y a encore de la marge. Et donc, logiquement, on devrait encore annoncer des régions plus tard. Mais pour l'instant, déjà, on a déjà pas mal de choses qui nous attendent.
Ok. Donc, tu voulais nous parler après d'un jeu. On ne parle pas souvent de Halo dans ce podcast. Et donc, c'est quoi ce sujet sur Halo 5 Guardians ?
Alors je te rassure, je ne me suis pas mis à jouer à Halo. Hein. J'ai arrêté de jouer à Halo en fait depuis Halo 2 ou Halo 3. Hein. Mais là en fait, c'est plutôt un article qui est passé récemment dans les blogs de Microsoft en fait, fait par un product manager. On a une partie des outils dans Azure de collecte de logs et d'analyse et de traitement de ces logs. Donc, ça s'appelle Logs Analytics. En fait, c'est un composant du bundle qui s'appelle Azure Operation Management Suite, OMS. Mm-hmm. Et en fait, l'article décrit qu'on a utilisé en fait Logs Analytics, donc une partie d'Operation Management Suite, pour effectivement faire le traitement des logs en fait et des données envoyées en fait par télémétrie donc sur le jeu, les sessions, etc. et les serveurs Halo 5 dédiés donc soit frontaux soit back-end. Donc l'architecture est assez importante sans doute, hein. Donc en gros on va dire que du côté Halo on a deux composants qui vont générer des événements et des logs. Donc ce sera d'un côté les clients, c'est-à-dire les consoles, Xbox, et de l'autre, ce sera l'infrastructure de serveurs dans nos data centers en fait, qui font tourner le jeu Halo, pardon, Halo 5. Donc ces consoles et ces serveurs en fait, vont remonter de la télémétrie via des mécanismes. Ils vont collecter ça par des choses qu'on connaît bien et qu'on pousse aujourd'hui pour tout ce qui est principalement IoT, mais pas que. Donc c'est Event Hub. Donc en gros, tous ces messages et cette télémétrie remontent dans Event Hub. Ensuite, elle est ingérée, entre guillemets, par Microsoft Logs Analytics, qui prend toutes ces données, entre guillemets, brutes de fonderie, et qui va donc les digérer selon un schéma donné, et permettre après de faire effectivement des recherches dessus, de la collecte, et puis du traitement de cette information, parce que l'objectif principal de Logs Analytics, c'est pas que collecter l'information et la stocker, c'est surtout être capable après de la traiter, de la digérer, d'en sortir quelque chose d'intelligible. Donc là ici, dans le cadre de Halo 5, il détaille pas exactement tout ce qu'ils sont allés traiter derrière, quelle est l'information qu'ils en retirent de tout cela. Mais globalement, on a dans Logs Analytics d'Azure, en fait, ce qu'on appelle des Intelligent Packs, qui sont des packs d'intelligence. En gros, ce sont les packs qui prennent la donnée brute et qui en ressortent quelque chose d'intelligible sous la forme de graphiques, de conseils ou autre. Donc, exemple d'intelligence pack, par exemple, dans Azure Logs Analytics, on peut collecter les données provenant de contrôleurs de domaine Active Directory. Et l'intelligence pack, en fait, va ressortir différentes graphiques, informations sur la sécurité, sur les performances de l'AD, sur sa configuration, sur sa réplication. Et derrière, ça va également faire une analyse des différents contrôleurs en fonction des messages, etc. Et ça va donner des points d'amélioration ou des points de sécurisation, des points de configuration à refaire parce qu'ils ont été mal faits, etc. Donc c'est un petit peu comme avoir un ingénieur spécialisé qui analyse votre... Dans cet exemple, votre Active Directory, en fonction de toutes les logs qui sont remontés et qui vous donnent les meilleures pratiques à appliquer. Donc après, il y a des logs, il y a des intelligence packs pour pas mal de choses. Il y en a un preview pour Office 365. Il y en a pour les serveurs de base de données SQL Server. Il y en a prochainement sur les containers Docker, etc. Donc ça s'enrichit, mais là c'était juste une illustration en fait de collecte massive de données et après de traitement de ces données depuis le Event Hub, qui est l'endroit où effectivement le composant d'Azure qui est dédié à recevoir des tonnes de messages comme ça provenant de différents équipements, et puis après de pouvoir les traiter dans une autre partie d'Azure.
Ok, super. Après ceci, tu as sorti d'un article qui date du 11 mai et qui regroupait l'ensemble des nouveautés, un nombre important de nouveautés dans Azure. Tu as sorti une nouvelle qui t'intéresse particulièrement et qui concerne Azure Site Recovery.
Oui, alors Azure Site Recovery, là encore, c'est un composant du grand bundle OMS, hein, oui. Operation Management Suite, hein. Et ça permet à SR de faire de la réplication de machines, soit de machines physiques, soit de machines virtuelles, VMware ou Hyper-V, ou des machines virtuelles dans un autre cloud tel que Amazon. Et ça permet en fait de répliquer au fil de l'eau, en temps réel, une machine virtuelle dans Azure. L'idée derrière, c'est qu'en cas de désastre majeur sur le data center ou le cloud source d'origine, on est capable en fait de réinstancier le réplica avec une perte de données relativement faible en fait en fonction du paramétrage, mais en gros le RPO maximum qu'on doit pouvoir avoir, je crois, c'est 15 minutes, donc on peut descendre un peu moins si on a des bonnes bandes passantes et des bonnes latences.
D'accord.
Donc la grosse nouveauté principalement, c'est que ASR désormais est disponible pour le modèle ARM en preview et dans le portail officiel maintenant moderne de Azure. Jusqu'ici, on était encore avec de l'Azure Site Recovery qui était dans l'ancien portail et qui fonctionnait que pour les machines virtuelles. Enfin, qui fonctionnait que dans l'ancien portail et qui ne prenait pas les machines ARM notamment. Voilà. Du coup, parce que c'était l'ancien portail.
Et donc, du coup, il nous reste quoi qui ne marche que dans l'ancien portail? Je vois Azure Active Directory encore.
Ouais, et Azure Active Directory, ça, c'est je pense que c'est le principal. Store Simple, si je ne dis pas de bêtises, est encore dans l'ancienne interface. Je ne suis pas certain qu'il soit encore dans la nouvelle. Côté dev, je sais pas, c'est pas ma spécialité. Sinon, côté IT, je crois qu'on a quand même ramené, on a quasiment presque tout ramené. Peut-être Azure MFA qui est encore un petit peu qui traîne par là-bas. Mais voilà, le gros morceau à ramener, c'est surtout Azure Active Directory.
Mais quelle transition magnifique avec Store Simple justement.
Ah, bah, on aurait voulu le faire, qu'on n'aurait pas réussi. Store Simple supporte désormais les stockages blob de type cool. On en avait parlé, je crois, dans le dernier podcast. Hein, ouais. C'était que désormais, on avait deux températures de stockage des données. Donc là, on parle de bloc blob. D'accord. Donc, pour tout ce qui est backup, sauvegarde, data copiée comme ça sur le stockage Cloud Azure. Et du coup, bah, effectivement, quand on pense à backup, quand on pense, etc., on pense à Store Simple aussi, qui est une appliance permettant de faire effectivement d'avoir du multi-tiers avec des tiers locaux, type disque dur magnétique, SSD, et puis des disques, un tiers dans le cloud pour le stockage, de données, on va dire, assez froides, assez peu utilisées. Et du coup, là, ça devient logique d'avoir utiliser le mode cool, donc froid, du stockage blob d'Azure, parce que simplement, il vaut 4 fois moins cher que le stockage blob traditionnel, hot. Et donc, ça y est, SourceSimple supporte l'utilisation du cool storage. Et donc, du coup, ça va là encore faire baisser les prix d'utilisation de SourceSimple pour le backup dans Azure.
Donc ça rajoute une couche de stockage, parce qu'il y a plusieurs niveaux de stockage dans SourceSimple, c'est le principe. Donc ça rajoute, c'est ça le principe, c'est qu'on rajoute un niveau de stockage encore plus, encore moins cher et plus long terme, si on veut, un petit peu.
Alors, plus long terme, on avait déjà un stockage qui était long terme avec le blob. C'est juste que, en fait, on stockait dans du blob Azure normal, quoi, des données qui, par définition, ne devaient pas être accédées très souvent,
oui.
Parce que c'était des backups ou des archives. Et du coup, en fait, on payait peut-être un peu trop cher pour des données qui étaient vraiment, entre guillemets, mises sur étagère.
D'accord.
En fait, en face, si on compare à peu près en face le... à peu près en termes de fonctionnalité ou de prix, chez notre concurrent Amazon, ça s'appelle Glacier, quoi. Donc Glacier, effectivement, le stockage est vraiment pas cher, mais il est fait pour des données qu'on n'a pas besoin souvent. Alors, parce que dans Glacier, en fait, quand on veut réaccéder aux données, en fait, ça prend un certain temps. Ce qui n'est pas le cas, par contre, chez nous, ça, c'est un avantage. C'est que ça change pas grand-chose, entre guillemets. La latence d'accès aux données ne change pas qu'on soit en hot ou en cool. C'est plus le mode de facturation qui va être différent entre le hot et le cool. C'est-à-dire que le cool va coûter 4 fois moins cher pour le coût du stockage. Mais par contre, on ajoutera un coût additionnel pour les transactions quand on veut récupérer depuis le stockage. Tu vois la différence ?
Oui, tout à fait. Normal.
Donc, en fait, quand tu configures StoreSimple, quand tu fais ce qu'on appelle un volume container, tu lui dis, tu peux utiliser un blob storage. Donc ça, historiquement, effectivement, on prenait un blob storage standard d'Azure. Désormais, en fait, on peut simplement dire, je vais pouvoir utiliser du cool stockage. En fait, la technique, ce qui explique à peu près, c'est que tu vas d'abord initialiser l'access tiers tout hot. Donc tu vas d'abord avoir ton compte de stockage Azure Blob en mode hot. Tu vas faire ta synchronisation, tes copies initiales pour tes données froides. Et puis ensuite, tu le switches en mode cool.
Cool, justement. Ok, et puis dernière nouvelle à propos d'Azure IaaS, c'est la disponibilité cette semaine, c'est très récent, d'une nouvelle série de machines virtuelles, la série F. F-com, on ne sait pas. Hein.
Comme il faut dire que c'est bien.
Voilà.
Donc, non, je sais pas. F, on avait déjà, ouais, pas mal de lettres. Hein. On avait A, D, G,
D, S, G, S,
N. Utilisé. Du coup, l'alphabet se rétrécit. Hein. Donc F, je ne sais pas si derrière la lettre, entre guillemets, il y a une volonté d'un nom particulier. Bon, enfin, en tout cas, c'est 10 nouveaux, c'est en fait 2 nouvelles séries qui font au total à peu près une dizaine de machines. Donc c'est des machines qui sont basées sur les derniers proc, sur des Xeon E5 2675 V3, donc des Aswell de chez nos amis d'Intel. Donc c'est des procs qui peuvent aller en gros de 2,4 GHz à 3,1 quand tu actives le Intel Boost technologie de zéro, le dernier. Donc en gros, c'est les mêmes processeurs qu'on a dans les séries DV2. La seule différence qu'on a, c'est que le but en fait de ces machines, c'est d'avoir un rapport qualité-prix assez intéressant, c'est-à-dire d'avoir les processeurs de dernière génération assez puissants et d'avoir en fait une sorte de règle de calcul, c'est la première fois qu'on a ça, entre le nombre de cœurs virtuels CPU et la mémoire et le disque également qui sera du disque SSD. Donc en gros, ces machines, si on regarde leur usage, elle est vraiment faite pour soit pour héberger des serveurs de jeux, des serveurs web, ou des serveurs qui vont faire des traitements, des batchs, etc. Donc en gros, tout workload qui n'a pas besoin d'avoir une énorme quantité de RAM, et qui n'a pas besoin d'avoir également énormément de SSD local. D'accord ?
Mais qui ont besoin de CPU.
Mais qui ont besoin de CPU quand même, qui dépotent.
Voilà.
Donc, en gros, ils ont fait, et là encore dans la nomenclature, dans le nommage, c'est également la première fois qu'on fait un nommage entre guillemets assez logique. C'est-à-dire que
assez mnémotechnique, effectivement. Ouais.
Voilà, ça a un bon niveau qualitatif. Donc en gros, les machines vont s'appeler standard F avec un numéro, ou standard F avec un numéro et un S derrière. Donc la différence, s'il y a le S ou pas, sera simplement la présence après d'un disque de stockage additionnel de type premium.
Donc ça, on a l'habitude du S, sauf que ce n'est pas présenté pareil précédemment, mais là, c'est la même logique.
Exactement, c'est la même logique, le S apporte utilise du stockage premium full SSD.
Et donc ce fameux nombre, qui peut être 1, 2, 3, non, pardon, 1, 2, 4, 8, 16.
Va correspondre en fait au nombre de cores CPU, virtuels CPU en fait, qui seront associés à la machine. Donc une F4 par exemple, aura 4 CPU, 4 virtuels CPU. Et du coup, on a un calcul qui est simple, c'est prend une F4 par exemple, elle a 4 CPU cores, et bien elle aura 8 Go de mémoire. On va en fait affecter dans ces VM 2 Go de mémoire par core. Donc il y a une règle, donc si tu prends une F8 aura 2 x 8 égale 16 Go de RAM.
C'est clair.
De la même façon, le disque temporaire qui est sur du SSD, la règle est assez similaire, c'est-à-dire qu'on va mettre 16 Go de SSD par core CPU. Donc si tu es sur une standard F2, tu auras un disque temporaire en SSD de 32 Go. Si tu es sur une standard F16, 16 cores CPU, 32 Go de mémoire, 16 x 2, et 256 Go de SSD, donc 16 x 16.
Et en même temps, je vois qu'il y a également une bande passante maximum qui augmente avec avec la taille de la VM.
Exactement, donc ça, enfin, on l'avait déjà dans les VM de type A, D ou autre. Plus on monte effectivement dans les chiffres et dans la grosseur de la VM, plus effectivement on affecte derrière une grosse bande passante. L'idée, c'est d'être homogène aussi dans ces configurations, ne pas avoir des configurations qui soient pas homogènes dans le sens où tu as une très très bonne carte réseau, mais en fait tu seras très vite limité par ton CPU ou ta RAM. Voilà, donc là c'est quelque chose qui est super homogène et qui est vraiment fait pour ça. Si on parle de disponibilité de ce. Alors, cette convention d'ailleurs sur les noms au passage, elle devrait s'appliquer sur les futurs modèles de machines virtuelles, pas forcément que les séries F, ce qui est plutôt un bon signe. Donc les séries F, elles seront globalement, elles sont disponibles d'ailleurs déjà, oui, au lancement, mais je crois que mes collègues l'ont déjà vu arriver dans l'interface. Elles sont disponibles sur la majorité des régions, alors la majorité en gros par plaque géographique, ce qui nous concerne nous pour l'Europe. On a les deux régions européennes, North Europe et West Europe, qui sont déjà disponibles pour les séries F, qu'elles soient F normales ou FS, avec donc du stockage premium. Il y a quelques pays, quelques régions qui ont pour l'instant juste la partie uniquement machine F et qui n'ont pas les premiums, simplement parce qu'en fait le stockage premium n'est pas disponible dans ces régions-là encore. Donc il y a North US, il y a East Asia, il y a le Japon Est et l'Australie Est et Sud-Ouest.
Donc eux non, eux, tu les cites simplement parce qu'ils n'ont pas le stockage premium. Donc tous les autres ont le stockage premium.
Exactement.
Donc nos deux régions européennes, North Europe et West Europe, ont tout ce qu'il faut. Cool.
Alors, il s'est passé des trucs également, Pascal, du côté de l'open source dans Azure. Hein. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, hein?
Oui, tout à fait. Donc la première chose, c'est une nouvelle qui est passée un petit peu inaperçue, mais qui est super intéressante quand même, c'est que FreeBSD est maintenant disponible dans le marketplace d'Azure. Alors FreeBSD, c'est quelque chose qu'on supporte depuis un certain temps déjà dans Hyper-V, dans vos data centers. Depuis fin 2015, je crois qu'on a officiellement intégré dans les noyaux FreeBSD les drivers de par virtualisation d'Hyper-V. Donc maintenant c'est officiel, donc on a une VM, un modèle de VM FreeBSD dans le marketplace d'Azure. Pour la version 10.3. Donc ça veut dire qu'on va supporter FreeBSD à partir de la version 10.3. Cela dit, si on a des versions plus anciennes de FreeBSD, pour certaines, en fonction des cas, on a parfois backporté certains drivers pour certaines versions précédentes. Par exemple, on peut retourner jusqu'à la 8.4 et on trouvera des drivers pour certaines parties. Alors on n'aura peut-être pas tous les drivers, etc. Peut-être qu'on aura des performances, notamment des performances au niveau du réseau, qui seront peut-être un petit peu moins bonnes que si on est en 10.3, mais on aura quand même des choses. On sera capable de faire tourner, de récupérer des anciennes configurations si c'est nécessaire. Donc, par contre, là, il faudra faire à la main, c'est-à-dire récupérer à la main nos images et les uploader dans Azure. Il n'y aura pas une image dans le marketplace. Donc pourquoi ce support?
Oui, Pascal, pourquoi ce support de FreeBSD? Parce que souvent, quand on dit FreeBSD, bon, on a les ultra-orthodoxes de BSD qui adorent ça, parce que c'est un très très bon système.
Tout à
Mais
fait.
c'est vrai que dans les populations que nous on rencontre un petit peu plus quotidiennement, plus Microsoft, un peu plus ouvert sur Linux désormais, mais FreeBSD reste quand même une sorte d'OVNI pour ces gens-là. Mais en fait, FreeBSD, il est super utilisé par certains fournisseurs de solutions. Et c'est lesquels, Pascal?
Voilà, en fait, on a des fournisseurs d'appliances virtuelles de type réseau, quoi, de services réseau, par exemple, qui souhaitent mettre à disposition leurs produits dans Azure. Et donc, on a travaillé avec eux les 2 dernières années là, pour mettre en place leurs images standards d'appliances virtuelles. Et parmi ceux-ci, on trouve par exemple Citrix Systems, Eure Networks, Stormshield, Gemalto, NetGate, qui vont donc fournir leurs appliances virtuelles dans le marketplace d'Azure, et leurs appliances virtuelles sont basées sur FreeBSD. Donc automatiquement, le support sera fait via le support de FreeBSD.
C'est quelques exemples, mais effectivement, le marché globalement des appliances réseau utilise quand même beaucoup, beaucoup des choses comme FreeBSD. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Il nous
Très bonne nouvelle.
manquait le petit
Parce qu'il
diablotin.
n'y a pas que Linux en fait
Oui,
dans l'open source, hein. Il faut pas.
souvent on fait le raccourci et on ne devrait pas.
Tout à fait. Et puis tiens, faisons une petite transition avec un article que tu es en train d'écrire, Stanislas, sur un produit alors que je connaissais pas du tout il y a une semaine, qui s'appelle Juju.
Alors, Juju, ça vient de nos amis de chez Canonical. Donc, tu sais, Canonical, c'est la société qui est derrière Ubuntu, en fait.
Oui.
Et c'est vrai qu'au départ, quand j'ai pris contact avec des personnes travaillant chez Canonical en France. Et puis, au départ, je pensais plus discuter avec eux de tout ce qui est Ubuntu, etc. Et puis en fait, en discutant avec eux, je me suis aperçu qu'ils faisaient pas qu'Ubuntu, Canonical. Ils font pas mal d'autres choses. Ils sont d'ailleurs assez leaders sur la partie OpenStack. En termes de nombre de déploiements, tous les gros déploiements OpenStack, la plupart des déploiements OpenStack, aujourd'hui, elle est faite sur les bases des services Ubuntu. Donc Yamas, et puis il y a d'autres choses qui sont disponibles. Sans rentrer dans le détail de l'offre de Canonical, parce que c'est pas ma spécialité, ils ont un produit qui s'appelle Juju, qui existe depuis déjà quelques années. Je crois que ça doit faire à peu près 3 ans, peut-être 4. 3, c'est sûr, 4, un peu moins. Et en fait, Juju, c'est un concept assez intéressant parce que c'est une sorte de prise de recul par rapport aux architectures applicatives. Tu sais que quand des architectes se réunissent dans une salle pour définir l'architecture d'une nouvelle application, la première chose qu'on fait, c'est prendre un gros tableau blanc. Et puis faire des ronds ou des carrés, et puis relier tout ça en disant bah là il y aura ça, là il y aura ça, etc.
Exactement.
Mais ça, c'est on a tous fait comme ça, puis parce qu'on est avant tout des personnes visuelles, hein. L'homme est un être visuel. Ça, c'était mon ami Régis qui disait ça il y a quelque temps. Et donc, en fait, partant de ce concept, eh ben, ils l'ont un petit peu, entre guillemets, appliqué au monde de l'informatique, si on veut. L'idée de Juju, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a des tonnes d'outils différents et de solutions logicielles différentes. Alors, on est plutôt dans le monde open source, mais finalement, c'est valable pour tous. Et que ça devient difficile, finalement, d'avoir des profils qui connaissent tout, quoi. Donc, je veux dire, aujourd'hui, si on te demande de sélectionner pour une application un système de base de données relationnel ou non relationnel, bah, du coup, le choix commence à devenir très très large, hein. Est-ce que tu vas faire de Hadoop, enfin, pour le traitement de la volumétrie? Est-ce que tu vas utiliser des tables CRAT? Est-ce que tu vas faire du MySQL? Est-ce que tu vas faire du MariaDB? Est-ce que tu vas faire... Voilà. Et là-dessus, ben, on a de plus en plus de solutions qui arrivent et ça devient difficile chaque fois de dire, ben, alors on va repartir de zéro, installer un OS, chercher tous les prérequis pour installer d'abord tel bloc, puis ensuite tel bloc, etc. Partant de ce concept, l'idée de Juju, c'est d'utiliser ce qu'ils appellent des charms ou des bundles, qui sont des ensembles de charms. Donc Juju, c'est magicien, hein, en Afrique du Sud, parce que Canonical vient de là. Enfin, plutôt son fondateur. Et donc, ces charms, ces sorts, consistent en fait, ce sont des sortes de packages en fait, qui ont été faits par les spécialistes de chacune des applications. Donc, tu vas par exemple avoir un charms pour, je sais pas, MySQL, un pour WordPress, Et du coup, si tu dis je veux déployer un WordPress, hein, eh bien tu vas utiliser le charme WordPress qui va du coup appeler les dépendances qui vont bien, etc. De manière sous-jacente d'ailleurs, ça va quoi? Ça va créer soit des environnements basés sur des machines virtuelles, soit sur du bare metal, soit des containers. Et le tout peut s'appliquer et peut être déployé sur des clouds privés ou publics. Parmi les clouds publics, il y a Azure, et c'est pour ça que je rebondis là-dessus. Effectivement, j'ai testé donc Juju avec Azure. Donc l'idée, elle est vachement intéressante, en fait, c'est de modéliser le service, d'avoir une certaine couche d'abstraction par rapport à la complexité sous-jacente à déployer tel ou tel service, et puis de modéliser le service, et puis en fait, après, de laisser Juju, en fait, prendre ses différents packages déclaratifs et on va dire scripts d'installation, de configuration, etc., et de le laisser faire, en fait, et travailler avec un fournisseur de cloud. Donc, dans l'exemple que je détaille dans mon article, donc j'explique comment, en gros, interconnecter Juju et Azure. Et l'idée derrière, en fait, c'est que directement depuis Juju, si je veux par exemple déployer, alors, je fais un exemple simple, c'est toujours l'exemple qu'ils utilisent Ubuntu, mais il me va très bien. Pardon, Canonical. C'est je vais faire un Juju deploy MediaWiki, donc je vais un MediaWiki qui est simplement un wiki utilisant comme base sous-jacente derrière un MySQL. Et là, en fait, moi personnellement, je connais rien du coup au déploiement de toute cette stack, mais en fait, il le fait pour moi de manière automatique. Et en fait, il va aller créer dans Azure Resource Group, hein, il va mettre dedans l'ensemble des composants nécessaires. Donc, il va instancier pour moi en fait des machines virtuelles, il va aller chercher des scripts et télécharger les binaires, etc. Et à la fin, en fait, mon applicatif il est disponible. Et en fait, si on est tout à fait réaliste, aujourd'hui, beaucoup de monde parle de Hadoop, mais il y a très peu de personnes qui sont capables de partir de from scratch d'un Linux et de faire l'installation, la configuration d'une architecture un peu complexe d'Hadoop. Il y en a, mais ils ne sont pas nombreux. Et finalement, avec des choses comme Juju, eh bien, on monte d'un niveau d'abstraction au-dessus et simplement, assez visuellement, ou en ligne de commande, on est capable en fait, de déployer une infrastructure fonctionnelle prête à l'emploi.
Ok Stanislas, on a bien compris à quoi servait Juju. Est-ce que tu peux nous résumer ça en deux mots?
Bah, en deux mots, non, mais
En trois.
en trois mots. Donc Juju, c'est donc un outil de modélisation de services et puis d'orchestration de leur déploiement et de leur maintenance.
D'accord. Ok, ben passons au dernier chapitre qui va concerner Windows 10. Alors en ce moment, vous savez que les builds insider, si on est dans le fast ring de Windows 10, s'enchaînent à un rythme assez important. Il y a une 14352 qui est sortie la semaine dernière, une 14361 qui vient d'être annoncée hier. L'article, je crois, date du 8, mais bon, j'ai pas encore vu personnellement la mise à jour sur mon insider à la maison, mais ça ne saurait tarder. Une des nouveautés intéressantes de ces deux dernières builds insider de Windows 10, c'est Hyper-V. Pardon, c'est les containers. Pourquoi j'ai fait un lapsus? C'est parce que c'est les Hyper-V containers en fait qui sont supportés sur Windows 10. Si on se souvient bien, on en a parlé plein de fois avec Stan dans ce podcast et ailleurs des containers avec Docker, mais avec aussi les containers Windows dans Windows Server 2016. Et on a vu déjà qu'il y a deux sortes de containers qui vont être supportés dans le serveur. C'est les Windows Container, qui offre à peu près la même isolation de process que les containers Docker classiques, et les Hyper-V Containers, qui rajoute un petit peu une couche d'isolation supplémentaire entre les containers. Dans Windows 10, on va avoir le support des Hyper-V Containers. Ça a du sens parce que on va exécuter en fait des containers Windows Server en mode nano serveur, et donc on ne s'appuie pas sur le noyau de Windows 10. On a un noyau qui est un petit peu différent, qui est celui de nanoserveur, d'où cette nécessité d'avoir une petite isolation supplémentaire et cette virtualisation supplémentaire. Donc on va s'appuyer sur Hyper-V. Il faut d'abord installer Hyper-V, ensuite installer la couche de gestion des containers, avec évidemment la couche Docker, et puis installer par-dessus une image de container nanoserveur, à partir de laquelle bon, on pourra construire avec les commandes Docker classiques un container personnalisé à base de nanoserveurs. Donc le scénario, c'est évidemment le scénario du développeur hein, qui va pouvoir développer son application nanoserveur dans son container sur son poste personnel, sur son laptop Windows 10, et qui ensuite va pouvoir le publier donc, dans un repository spécifique à Docker ou un autre repository de container. Donc voilà pour la première mise à jour. La deuxième mise à jour intéressante de la dernière build de la 14361 de Windows 10, c'est LastPass dans Edge. Alors, c'est ce qui est annoncé. Hein, on est d'accord.
Hein.
Donc dans Edge, ça fait quelques builds déjà qu'on supporte les extensions. Les extensions de navigateur. Hein. Et on supportait déjà, moi ce qui me ravit avant tout, quoi, c'est AdBlock et AdBlock Plus. Et puis, qu'est-ce que j'utilise d'autre que dans mes autres navigateurs? J'utilise Pocket, on le supporte également, Pocket.
C'est quoi Pocket?
Alors Pocket, c'est un genre de super marque-page. Tu notes, tu gardes un bookmark, si on veut, vers un site qui t'intéresse et que tu n'as pas le temps de lire maintenant, tu le liras plus tard. Et comme c'est dans le cloud, c'est réparti, et quel que soit le device ou le browser que tu utilises, pouf, tu retrouves tes bookmarks et tu peux relire tes articles. Par exemple, là, sur mon Edge, je pourrais marquer une page web comme étant à lire plus tard, et je pourrais la lire plus tard sur mon téléphone, parce que j'aurai l'application Pocket sur mon téléphone.
Pas mal.
Super intéressant. Et puis, AdBlock Plus, donc on connaît, on ne le présente pas. Il y a également le OneNote Web Clipper, super intéressant également pour découper un bout de page web et le noter dans OneNote. Enfin, il y en a déjà un certain nombre. Et puis là, on rajoute LastPass. Donc moi, ça me ravit parce que j'utilise personnellement LastPass pour mes mots de passe personnels. Si un gestionnaire de mots de passe dans le cloud, hein, centralisé. Très bien fait, très pratique. Il y a également des applications sur les téléphones mobiles pour récupérer ces mots de passe. Il y a de la double authentification. Et puis ils sont très réactifs quand il y a des soupçons, même un simple soupçon de hack dans leur système, c'est arrivé dans le passé. Ils sont hyper réactifs et ils préviennent les gens tout de suite. Il n'y a jamais eu de cas où ils ont voulu cacher le moindre problème qui serait arrivé ou qu'on aurait eu ou pour lesquels juste on aurait eu un simple soupçon. Donc des gens que j'apprécie particulièrement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des améliorations de Windows Ink. Pareil, une nouveauté récente dans les insiders de Windows 10. Des nouveautés de debug. On a en gros débugué des problèmes et amélioré les performances de la saisie avec le stylet. Le reste est assez anecdotique. On a améliorer un petit peu le côté cosmétique de l'application Settings, ça sera plus lisible, plus simple, plus clair, etc. C'est vrai que c'était pas très... c'est pas ce qu'il y avait de mieux jusqu'à maintenant. Des nouvelles icônes un petit peu partout dans Windows 10, ça c'est sympa, hein, le petit côté esthétique, ça fait toujours plaisir. Et puis le gros de la troupe du reste des améliorations, c'est surtout du debug, des corrections de bugs évidemment, puisqu'on est toujours en phase bêta. Donc voilà, pour résumer, les containers à tester absolument, et puis les extensions dans Edge. Bah, Stanislas, je crois qu'on a fait le tour.
Bah, c'était pas mal finalement, hein, pour quelques petites actualités.
Pour cette reprise après un mois d'absence.
Exactement, on espère qu'il y aura quand même des nouveautés qui vont tomber durant ces mois d'été, hein, en attendant le gros événement de la rentrée, qui sera Ignite, hein, qui est la grande conférence mondiale Microsoft. Il y aura pas mal d'annonces qui devraient être faites.
Qui a lieu, je crois, dernière semaine de septembre, c'est ça?
Quelque chose comme ça, un petit peu avant la grande messe française, cette fois-ci, de Microsoft, qui devrait s'appeler Microsoft Experience, qui aura lieu le 4 et 5 octobre.
On en reparlera d'ici là. Merci Stanislas.
Merci Pascal.
Merci à tous. Je fais un coucou à aux gens que j'ai croisés à Lyon notamment et qui m'ont dit qu'ils écoutaient le podcast avec intérêt, donc ça fait toujours plaisir. Bonjour à eux, bon week-end et à bientôt.